Alléluia. Je suis surpris par l'intérêt que ce message a porté pendant les mois, les semaines passées. C'était un grand sujet de conversation, n'est-ce pas? Ce qui signifie, c'est une matière qu'il faut qu'on décortique très bien. Avant de parler de devenir quelqu'un aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur la matière de la fois passée. D'abord pour réagir aux questions que Do et Annette viennent de poser. La sœur qui a dit qu'il faut que le frère ou le mec ou le monsieur, selon votre vocabulaire, doit avoir de l'argent. Je pense qu'elle a raison parce que vous n'avez pas dit combien d'argent. Oui, ça peut être 1000 francs, ça peut être... C'est de l'argent aussi, n'est-ce pas? Ça peut être 100 dollars. Le problème avec quand on dit avoir de l'argent, si on ne met pas un chiffre, personne ne sait combien d'argent dont on parle. Donc quand tu dis la personne doit avoir de l'argent, il faut avoir un chiffre, tu veux dire combien d'argent. Mais d'une manière générale pour cette question, moi je vous suggère que la sagesse demande que la personne, je pense que je l'ai dit, avec laquelle vous vous engagez, puisse travailler. Je ne dis pas avoir un boulot, mais je dis plus aimer le travail et plus travailler et puisse avoir le minimum pour vivre. Et là, le minimum peut changer selon votre contexte et selon là où vous êtes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mariés en ayant un boulot, mais le boulot finit un mois après le mariage. Vous faites quoi? Est-ce que vous allez changer ça? Oui, tu as une case, mais tu as un moyen qu'on a. On s'engage pour la vie, il faut savoir distinguer ce qui est superflu dans le mariage et ce qui est principal. C'est pourquoi il faut savoir, est-ce que cette personne aime le travail? Parce que si la personne aime le travail, la vie peut vous jeter des choses, vous allez vous ajuster. N'est-ce pas? Mais il faut en avoir mon cas. Je passe le exemple en ce moment, il y a Goma. Il y a Goma ou il y a un grand nord? Il y a mon grand or. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui peut travailler, qui peut se débrouiller, qui peut se rassurer. Et surtout la question des responsabilités. Il y a des gens qui n'ont pas un salaire, il n'est pas engagé, mais c'est un responsable. Il doit se rassurer que chaque jour, il y a la nourriture sur la table. Du 1er au 31. Et je vous ai dit, mes chers amis, il faut vous poser la question, si vous voulez... Je m'excuse, j'ai poussé un peu ma voix trop fort dans les cultes anglophones. Donc, si j'ai des problèmes. Donc, je vous ai dit aussi qu'un des grands critères qu'il faut voir, c'est le critère de la responsabilité. Est-ce que cette personne est responsable? Je vous ai donné un défi. Essayez. Combien ont essayé d'acheter la nourriture pour leur famille cette semaine? Kuko Balipima? Ah, il y a la soeur. Ah, levez-vous un peu. Ah, et là derrière, est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Je voudrais qu'on donne le microphone à une personne, à Tombie Kama, il est Sikubalikulani Nanine. Quand c'était ton tour, il y a quelqu'un qui veut essayer. Oui, donnez le microphone à la soeur. Elle va nous dire comment était son expérience de prendre la responsabilité. Oui.
J'ai acheté les bichoucha. Et j'ai mis des arachides.
Bichoucha arachides?
Oui. J'ai mis des poivrons, des tomates. Des jours là, mon papa m'a félicité.
On n'a pas fini. Ton papa t'a félicité.
Oui.
Tu as dépensé combien pour faire nourrir la famille?
5000 francs seulement.
5000 francs? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Je voudrais un homme aussi. Un homme. Ok. Ça doit être que tu as nourri plus de deux personnes. Si c'est toi-même, non. Plus de deux personnes. Donc, vous voulez dire quelque chose? Donnez le microphone à Don. Qu'est-ce que les gens ont mangé?
Bon, moi, ce n'est pas forcément la nourriture, mais... J'ai payé le loyer de ma famille.
Tu as payé le loyer?
De ma famille.
Tu as payé le loyer de ta famille. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour Don? Merci beaucoup d'avoir pris le défi. Et je vous redonne ce défi pour ceux qui n'ont pas encore fait. Cette semaine, essaie de prendre un jour où tu dois prendre en charge ta famille. La sœur a fait avec 5 000 francs. Combien d'entre nous dépensent 5 000 francs sans y penser? Cela va commencer à cultiver la responsabilité en vous. Je vous dis, mes chers amis, le malheur que vous pouvez avoir, c'est de vous marier avec une personne qui n'est pas responsable. Avoir de l'argent ou ne pas l'avoir, c'est relatif. Tu peux l'avoir aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. Mais quand tu as la capacité de produire, c'est ce qu'on voit dans l'homme. Et là, je vais te placer un mot pour dire, même quand tu choisis ton conjoint, ne choisis pas la personne parce que la personne est là où toi tu veux. La personne peut ne pas être là où tu veux, mais tu dois te poser la question, est-ce que la personne a le potentiel d'être là-bas? Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, ils sont normaux, mais quand vous voyez le potentiel qu'ils représentent, on a seulement un peu de mal. Allô? Il y a des filles ici qui sont jeunes, peut-être à eux qui sont les Mouekodim, mais on a potentiel à Moutotonogo. Il y a des garçons ici, peut-être qu'il n'y a rien. Anatomika Moumédia tout. Allô, elle vous, ça va là-bas? Gershom, Vicky, je vois tout le monde, Christian. Ok. Anatomika Moumédia, mais quand tu vois le potentiel, tu dis que cet homme va loin. Alors, je ne voudrais pas que nous puissions nous suivre l'amour à la mode où tu veux te marier avec quelqu'un qui est déjà arrivé, comme on dit à Goma. Mouniachak Afika. Marie quelqu'un qui a un potentiel. Ça va? Tu veux être professeur à l'université, voyager partout dans le monde. Est-ce que tu as quelqu'un qui a le potentiel d'aller avec toi à Singapour? Tu peux marier quelqu'un ou qui toka mounor kifou nakouf. Donc, la personne sait que moi j'ai une limite géographique, je ne traverse jamais la frontière. A ta volker à tombo kaizien darouan, au moins ça. Donc là tu as un problème. Il y aura un conflit entre ta vision et ce que tu veux. Est-ce que la personne a le potentiel de t'accompagner dans ta vision? La personne ne peut ne pas être là. Mais vous pouvez grandir ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que toi aussi, tu n'es pas là où tu es en train d'aller. Tu es une personne en devenir. Il faut permettre l'autre d'être aussi une personne en devenir. Moi, tel que vous me voyez aujourd'hui, Mungo est 5 ans. Que Dieu nous prête vie seulement. Je suis une personne à devenir. Je vous dis, si vous me trouvez l'année prochaine au même niveau que je suis aujourd'hui, dites-vous qu'il y a un problème avec ses frères. Parce que ça va signifier que je ne suis pas en train de progresser. Un des signes qu'une personne a le potentiel est que vous trouvez un progrès dans la personne. Nos sœurs qui sont ici, est-ce qu'un jour tu peux même faire, on a sur YouTube, on a 100 mégas. On a dit, on a attaqué à recette et puis on a qu'à surprendre les gens. Aujourd'hui, vous allez manger, on a fait un cadine qui est compliqué. Croquette de quelque chose. Tu le fais à la maison. Tu viens d'investir. Tu viens de faire quelque chose de nouveau. Mais il y a des gens ici, vous voyez, comme on a dit, on a bougalé, on a dit, on a dit, ville du 1er au 31 jusqu'à ce que Jésus revienne. Soit une personne en devenir. Je vais conclure ce chapitre en disant, je vous avais promis la semaine passée de vous donner la raison pourquoi nous ne sommes pas capables de choisir même après avoir suivi un séminaire sur le choix. Pourquoi avec toute cette sagesse que nous avons partagée, tu n'es pas à mesure de dire, ah, je vois maintenant la personne que je dois choisir. Il y a un aspect que je n'ai pas partagé la semaine passée que je vous donne maintenant, qu'on appelle les temps et les circonstances qui entrent dans l'équation du choix. Tu as déjà considéré la sagesse, tu as déjà considéré la personne, le potentiel, tout ça, Mais il y a ce qu'on appelle les temps et les circonstances. Ça signifie quoi? C'est l'aspect de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui orchestre les choses pour que toi et ton partenaire vous puissiez vous rencontrer. Je vous donne un exemple pratique. À supposer que la personne que vous allez prendre en mariage soit au Brésil. Ça va? Tout le sommet, c'est votre géographie. Je voudrais que vous puissiez imaginer le Brésil. C'est dans l'Amérique latine, un pays qui parle le portugais. Mumeyona, Icoapa, en face du Congo, océan Atlantique, de l'autre côté. Imaginez que la personne soit au Brésil. Quelle sagesse on peut vous donner ici à Gomaville pour que vous sachiez que la personne est au Brésil? Même si on vous donne tous les livres sur comment choisir un conjoint et que tu les lises, tu les mémorises, il n'y a pas une sagesse qui peut te dire que cette personne est à Porto Rico ou à Rio de Janeiro. Mais il faut qu'il y ait des temps et des circonstances. Mon enda ku conférence, ça ce sont des temps et des circonstances qui créent cela. Même dans notre service ici, il se pourrait que la personne que vous allez finir avec soit ici aujourd'hui avec vous. Allô? Même si je vous demande de regarder dans la salle, vous n'allez pas voir. Parce qu'il y a un aspect du plan de Dieu qui n'est pas encore entré en jeu. C'est ce qu'on appelle les temps et les circonstances. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui se connaissent pendant longtemps. Ils se voient, ils passent, l'autre passe ici, l'autre là-bas. Un jour, on a coupé la chapendale. On a quoi ça? Qu'est-ce qui c'est? Parce que ce sont les temps et les circonstances. Moulinda tout sorti. Oh, tout le monde à San Diego, gospel Lipanda. Lik et Christelle. Gospel Lipanda. Voilà les temps et les circonstances. Et on en profite pour vous inviter à Gospel Lipanda pour cette année. On ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci, mes chers amis. Il faut avoir la patience avec la question du choix, parce que vous n'avez pas toutes les cartes dans la main. Mes chers amis, nous devons faire cette question du choix avec beaucoup d'humilité. Il y a un problème avec le micro. Avec beaucoup d'humilité, parce que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Et la question des temps et des circonstances vient clarifier les choix. Mais il faut que ça te trouve que tu as déjà la sagesse nécessaire pour que tu puisses découvrir que les temps et les circonstances sont déjà là. Toi-même, tu ne peux pas. Il y a maintenant des gens qui créent eux-mêmes les temps et les circonstances. Vous allez faire des erreurs. C'est Dieu lui-même qui crée les temps et les circonstances. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur la planète. 7 milliards. Si on prend les statistiques, il y a toujours 60% d'hommes, de femmes et 40% d'hommes. Ça signifie qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Donc il y a déjà 10% de femmes qui ne vont pas se marier si chacun prend une seule femme. Donc si on prend les statistiques, on les applique ici. Donc il y a 10% de dada parmi nous qui peuvent manquer. Mais il y a les gens à l'Arche, à Restoration, à Gisenyi, à Bukavu, à Masisi. Tout ça, ce sont des mondes. Donc, ne paniquez pas, mes chers amis. Ça peut être que ton choix, iko Kigali. Naye kona fatazi maseminere zingine kona angalia kule kubakuba kule Kigali. Kumbe huko hapa mgomo kwa tembea mmajio. C'est pourquoi approcher cette question avec beaucoup d'humilité et attendre que le temps de Dieu puisse se manifester. Amen. Alors, oui, oui, vous pouvez acclamer, ça va. Ok. On a un problème aujourd'hui. Mais l'autre, le malaise a mieux qu'il te, donc ça va nous aider. Alors, Donc, a dit qu'il y a des papiers qui ont été circulés. Écrivez les questions. Le président pourra choisir une date où on pourra venir seulement pour répondre aux questions. Ça va? Il est à quoi? Car donc, les questions, on prend la question. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit, mais vous dites, mais si on considérait ça, mais si on considérait ça, ce jour-là, nous allons traiter toutes les questions des mais. La sœur Hortense, je pense, a déjà les papiers. Elle peut commencer à les distribuer. Vous pouvez remplir maintenant ou aller avec à la maison et amener la question le dimanche passé. Mais ne perdez pas les papiers, ça va. Et aussi, essayez d'écrire quelque chose de lisible. Oui, oui, nous avons souvent des problèmes quand nous devons dépouiller les questions. Mouton Andika, Mounaïta Comité, il déchiffre Vénélandika Mounachine. Donc, choisis si c'est le français, écris en français. Si c'est l'anglais, tu écris en anglais. Si c'est le swahili, en anglais. Et aussi, ce n'est pas une prescription médicale. Donc, Bilebe Kwandika, ça, docteur, à part. Tu seras docteur après, mais maintenant, donne-nous la question. On va t'aider. Permettez-moi de faire une pause, de boire un peu. Et puis on entre dans la matière d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi avaler la salive. Wow. Alors, devenir quelqu'un. Nous avons parlé d'autres questions de choix. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser pas sur l'autre, mais sur vous. Vous en tant que personne. Quelle est la personne que vous voulez être? Quel est l'héritage que vous voulez laisser sur cette terre? Nous allons voir à travers la vie de David quels sont les quatre moments. Il y a plus de ça, mais j'ai choisi quatre moments clés dans la vie de David qui peuvent nous inspirer à laisser une marque sur notre génération. Dans la Bible, toute la fois que Dieu veut nous enseigner quelque chose, il y a toujours quelqu'un auquel il nous envoie, comme cette personne représente une école quelconque. Par exemple, si tu veux apprendre la constance et l'intelligence, l'influence, il faut lire Daniel. Daniel, c'est une école, toute une école. Si tu veux apprendre comment marcher avec Dieu, il faut apprendre Moïse. Moïse, c'est l'école qui nous montre comment on marche avec Dieu. L'école de la mission, c'est Paul. L'école de l'influence, de la beauté, c'est Esther. Un livre dans lequel on ne mentionne pas Dieu. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas la mention de Dieu. Mais où il y a une démonstration de ce que Dieu est capable de faire. Donc, dans chaque partie de la Bible, il y a toujours une personne à qui Dieu nous envoie comme une école. Et dans l'école de l'influence, dans l'école de celui qui fait des grandes choses, je pense que David représente une des grandes écoles. Dans l'école de la souveraineté de Dieu, il faut lire Joseph, il faut lire Jacob. Donc tous ces gens, ce sont des thèmes. Pourquoi c'est important? Si tu vois dans la Bible, il y a des gens comme Joseph et Daniel, il est très difficile de trouver quelque chose de négatif sur eux. Je pense que vous avez déjà lu la vie de Joseph et la vie de Daniel. Tout ce que la Bible dit sur eux est de positif. Mais la personne comme David, il a des bonnes choses et aussi des erreurs moins à dégâts. Et on peut se dire pourquoi Dieu choisit même d'appeler son fils, fils de David, quelqu'un qui a été dans la débauche, qui a été dans beaucoup de choses, mais aussi qui était un adorateur. Pourquoi ne pas choisir d'être appelé fils de Daniel? Mais il dit fils de David. David qui a fait tuer Uri, David qui a pris des femmes, David qui a fait des dégâts, qui a tué sans Philistin, et il les a circoncis, il a amené la chair de la circoncision à Saul. C'est dans la Bible. David a fait des dégâts jusqu'à ce que Dieu l'a interdit de construire son temple. Quand il voulait dire, je vais construire une maison pour Dieu parce qu'il était à Igal, conquis Jérusalem, il voulait construire, il a construit Jérusalem, il veut construire la maison de Dieu. Il a dit, Paul, arrêtons là-bas. Tu ne peux pas construire ma maison avec tout ce sang. Et David a dit, ok, comme je ne peux pas construire, j'achète les matériels. Il a acheté tous les matériels disponibles à Kazitia Moudepo. Et son fils est venu construire avec. Voilà un peu le caractère. J'ai l'impression qu'on ne lit pas la Bible. Alors, voilà un peu le caractère que nous allons étudier pour voir quelle influence nous devons donner. Je peux parler de David pendant un mois et j'aurai à dire. Parce que c'est vraiment une grande école. Donc je vais vous raconter un peu un résumé de là où nous sommes parce que c'est beaucoup de chapitres. Il faut lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois pour comprendre un peu l'histoire. Donc c'est très long. Je vous donne un petit résumé. 992 ans avant Jésus-Christ, David naît. C'est autour de 54 siècles, générations avant Jésus-Christ. Il naît dans un coin de Canaan, de la famille de Benjamin, qui était la famille du cadet de Jacob, et il est cadet de la famille. Imaginez, tu nais de la tribu cadet, et tu es cadet de la famille. Il naît dans une période où les Israélites ont un problème avec les juges. Quand ils quittent l'Égypte, ils arrivent à Canaan, ils n'ont pas de prophètes, Dieu suscite des juges. C'est là où nous avons déjà comme Samson qui était et Samuel qui va être le dernier juge. Avec ces juges, ils vont combattre les autres nations, ils vont faire beaucoup de choses, jusqu'à ce que un jour, ils vont décider, non. Comme nous avons cette bataille avec les Philistins, nous allons amener l'arc, utiliser l'arc de l'Alliance comme une fétiche pour l'amener à la guerre. Dieu va permettre qu'il soit bâti, l'arche de l'Alliance va être transportée de l'autre côté par les Philistins et ils vont rentrer battus. Bien sûr, Dieu va se battre pour l'arche qui va tuer leur Dieu là-bas, c'est une longue histoire. Les Philistins vont être obligés de dire, ils vont ramener l'arche sans qu'on ne puisse pas les demander. C'est dans ce contexte-là où les Israélites vont dire, non, nous avons aussi besoin d'un roi. Ils vont aller à Samuel, nous avons besoin d'un roi. Samuel le refuse et dit, nous avons besoin d'un roi. Dieu lui dit, ok, s'ils ont besoin d'un roi, donne-leur un roi. Samuel choisit Saul, nous connaissons qu'il était allé chercher une brebis perdue, tout ça, et qu'il a rencontré Samuel, on met Saul roi. Il déplaît au Seigneur, et Dieu n'est plus content avec lui, il va dire, allez les remplacer. Et c'est dans ce contexte que Samuel va aller vers la maison de Jessé pour oindre David. Jusque là, on est ensemble. Je veux que nous puissions suivre ces détails historiques, parce que quand je vais donner les quatre étapes, on ne va plus se perdre dans l'histoire. Samuel arrive là-bas, il dit à Jessé, les gens le voient venir, il dit, hé, l'homme de Dieu vient dans notre village, qu'est-ce que nous avons fait? Dans les temps, si l'homme de Dieu venait dans votre village, il fallait avoir peur. Aujourd'hui, on voit les pasteurs venir, c'est « Ah, pasteur Karibou, ingi, akula. » Mais là, si vous voyez un prophète venir dans votre village, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il peut dire, les vieux du village viennent et disent, non, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, non, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Mais quand il fait ça, bien sûr, il ment. La vraie raison est qu'il vient oindre David. Il va aller à la maison de Jessé, il dit, amène tes fils. Nous savons que les fils vont défiler d'Eliab à d'autres. Il va dire, non, ce n'est pas ceci. Et puis à la fin, il va demander à Jessé, mais tu n'as pas un autre fils? Et c'est là où Jessé se rappelle, mais j'ai un petit. En fait, la Bible dit un gosse qui est en train de perdre les boulons. Et Samuel va dire quelque chose d'intéressant. Personne ne va s'asseoir jusqu'à ce que ce gosse arrive. Donc Samuel va obliger tout le monde qui est là de rester debout. Qu'on aille chercher David et qu'on le ramène. Imaginez-vous ton avis à quoi ça. On va chercher David. Bien sûr, quand il arrive, on attend Mopori. Il arrive, le Seigneur dit à Samuel, voici le roi, il est loin. Narufu ya mangombe, nanini, tout ça avec le mélange de l'huile, il est loin, roi. Et puis, Samuel repart. Allô? Samuel repart, mais David, Samuel repart à Rama. David, lui, repart dans la forêt pour prendre les mesures. On vient de le loindre roi, mais il repart. Il ne va pas au trône, il repart au lieu du travail. Tout ça, c'est important. Bien sûr, avec le temps, Saul va avoir des problèmes, il va être troublé par l'esprit. On va amener David pour jouer la musique pour qu'il puisse s'apaiser. Et puis finalement, il y aura Goliath. David va venir, il va tuer Goliath. Et puis Saul va commencer à chasser David d'ici et là. Et finalement, Saul va mourir. David prend le pouvoir et il va réunir les royaumes. Voici un peu le contexte dans lequel. Alors, je vais choisir quatre moments dans la vie de David qui peuvent nous donner un parcours dans lequel nous devons être et là où nous allons aussi nous retrouver là où nous sommes. Le premier moment, je l'ai appelé David, virgule, le héros dans l'ombre. David, le héros dans l'ombre. David est un berger qui a déjà fait beaucoup de prouesses, mais que personne ne connaît. Il tue un lion, il tue un ours, il fait beaucoup de choses, il chante, il joue à la musique, mais personne ne reconnaît son talent. C'est un héros, mais qui n'est pas reconnu par la population, par sa propre famille. Ou imaginez, bana figa kwenu iko tafuta roi, bana leta bengine wote wewe hapa kumansione. Mupaka mwe iko tafuta roi na uliza lakini est-ce que njoo wote hapa? Njoo wanaanza kumuka lakini ule petit yako sina yani tunaweza muhesabia. Ça suffit, il était négligé même au niveau de la famille, qu'on ne l'avait même pas considéré comme un roi potentiel. Mais ce qu'il faisait, il était en train d'apprendre, de développer son talent, de développer ses outils et de devenir quelqu'un d'un fort caractère. Il était en formation. Ça signifie la première phase de notre vie doit être une phase de formation. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux impacter ta génération, tu dois prendre le temps d'être formé dans l'ombre. On ne se forme pas en public. Imaginez où on était à la salle de classe et pas le courant pour signer. Je vais vous dire 1 plus 2 égale. Qui peut apprendre? Il y aura des véhicules, il y aura tout ça. La chaleur. Ma énergie, donc toutes sortes de distractions. Les gens ne peuvent pas apprendre. On apprend dans le silence, dans l'ombre. C'est là où on développe son caractère, c'est là où on développe son talent. Je voudrais, si nous voulons changer cette génération, est-ce que nous pouvons accepter d'abord d'être des zéros dans l'ombre? De faire des choses même dans cette église, que même le ministère dans lequel tu es ne reconnaît pas. Mais toi, tu sais que tu es en train de travailler. De faire les choses dans la famille. Ceux qui sont autour de toi ne reconnaissent pas les talents. Mais toi, tu sais que tu es en train de te former. Les gens qui sont ici à la chorale, ils peuvent venir ici le dimanche, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de se former dans l'ombre. La première étape pour être quelqu'un d'influent, c'est de prendre le temps d'être formé. De chercher les livres, de chercher les mentorats, de chercher à découvrir quel talent tu as. Tel monde a besoin. Je vous dis, mes chers amis, si tu n'as rien à donner au monde, il ne faut pas t'aventurer à vouloir donner quelque chose. Allô? Je vous donne un exemple. Certains d'entre vous peuvent vouloir rencontrer, par exemple, Joe Biden, le président des États-Unis. Qui peut vouloir les rencontrer? Ne levez pas la main. Beaucoup de gens. Mais à supposer que j'ai le pouvoir de vous organiser une rencontre demain, Mina ukamata paf, Pennsylvania Avenue, Maison Blanche, unaingia. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Utamwambia nini? Tout ce que tu vas vouloir ni kupicha selfie pour que uoneshe marafiki yako, ok, emoshere nilikuwa na Joe Biden. Tu es devant l'homme le plus puissant au monde. Et la seule chose que tu vas décrocher là-bas, c'est une photo. Parce que tu auras marché jusque dans cette présence sans rien à offrir. Mais à supposer que tu es par exemple une organisation qui est en train de combattre la pauvreté au niveau de la RDC et que tu as des canaux par lesquels tu peux faire une différence, quand tu arrives dans ta présence et tu lui parles, vous allez parler en égal comme des gens qui veulent changer le monde. Il ne faut pas se lancer dans le monde quand tu n'as rien à offrir. Prends le temps d'être un héros dans l'ombre. C'est ce que David fait. C'est un héros dans l'ombre. On ne sait pas qu'il avait tué les lions et l'ours jusqu'à ce que Goliath apparaît. Ça signifie qu'il n'avait même pas raconté cette histoire à sa famille. Mes chers amis, il y a des accomplissements que tu n'as pas même besoin de raconter à ta famille. Parce que c'est toi avec Dieu qui sommes en train de travailler sur quelque chose. La plupart d'entre nous, si nous faisons quelque chose d'exceptionnel, tout le monde va savoir. Certains d'entre vous ici même mettent quelque chose sur les statues. Quelqu'un voit, ne commente pas. On a sa que Fulani a Lyon a commenté toi na pit. Next. On a Sirik. Joanine a commenté Koustati. Allô? Est-ce que nous sommes prêts à changer cette génération? Si nous sommes dans cette mentalité, ma réponse est non. Mais je voudrais voir des jeunes. Moi, je voudrais, je dis à Dieu que je voudrais être parmi ceux qui vont donner un nouveau jour à cette nation, à la RDC, à cette sous-région. Mais cela demande un sacrifice d'apprentissage. Cela demande de comprendre des choses. Cela demande de comprendre comment l'économie fonctionne. Cela demande de comprendre comment les multinationales fonctionnent. Cela demande de comprendre les sources des guerres. Cela demande de comprendre la sociologie politique du pays. C'est un travail dans l'ombre que je vous suggère qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie? Est-ce que vous êtes en train de vous former pour ce travail? Si tous vos rêves devenaient une réalité, est-ce que vous serez prêt à prendre la direction? J'ai peur que quand on a annoncé ce sujet, devenir quelqu'un, il y a des gens qui ont lu ça, devenir célèbre. Non, non, ici nous ne sommes pas en train de parler de devenir célèbre. Nous sommes en train de parler de devenir quelqu'un, influencer ta génération. Donc première étape, sois un héros dans l'ombre, prends le temps d'apprentissage et d'être formé. Si tu fais ça, je te dis, tu as déjà ce dont tu as besoin pour impacter ta génération. Ça signifie ceci en d'autres termes. Maintenant, comme vous êtes là, il y a des batailles que vous êtes en train de livrer dans votre vie privée. Si vous êtes en train de les réussir ou d'échouer, nous ne pouvons pas savoir. Mais quand votre jour de manifestation sera, on saura si vous aviez échoué en privé ou si vous avez réussi. Allô? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont un talent et dès qu'on met les projecteurs sur la personne, vous commencez à remarquer les problèmes de caractère. Ça signifie que tu as un talent, mais tu n'as pas appris que pour manifester ce talent en public, ça va demander que je sois courtois. Tu es là, tu veux aller vers des nations, être avec des présidents, tu n'as pas appris à fermer ta bouche. Tu arrives devant des gens qui gèrent des milliards de dollars, tu commences à donner des suggestions. Moi, je pense que c'est... Non, non, ça, il faut... Tu ne penses pas, ça c'est un moment où il faut être bouche bée et attendre ce que les gens sont en train de dire. Ça, ce sont des choses qu'on apprend dans l'ombre. Pour que quand Dieu se révèle, il révèle ta personne, tu es prêt. Je disais aux gens, ils m'ont dit que je me sous-estime. Aujourd'hui, si vous me demandez de diriger la RDC, je vais refuser. Parce que je ne suis pas prêt. Mais je peux être prêt dans 10 ans. Mais il y a certains d'entre vous, on peut vous demander président de la République, oui. Et puis, on dit, ok, ça tout fait à lui, c'est quoi président? Je viens de prêter serment, on commence où? C'est ce qui se passe dans nos pays. Ce qui tue l'Afrique, ce qui tue nos générations, ce sont des gens qui acceptent des responsabilités pour lesquelles ils n'ont pas les capacités. L'histoire de la zaïranisation, on prend une entreprise comme la Gécamines, on donne à quelqu'un qui était huissier. Il ne connaît même pas c'est quoi le circuit de fonctionnement du cuivre. On en a besoin pourquoi? Il ne sait pas. En ayant que bossa nekala kanyuma akiti. Namina pa na mina nza signé. Mais pour qu'il signe, comment ces documents parviennent là-bas? Ça signifie quoi un contrat? Ça signifie quoi un carré minier? Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Il y a même une histoire en Ouganda, quand Idi Amin Dada était président, il n'y a pas de l'argent, il appelle le directeur de la banque et lui dit, j'ai besoin de l'argent. Le directeur de la banque centrale de l'Ouganda lui dit, on n'a pas d'argent. Il dit, toi tu es le directeur de la banque centrale, moi je suis le président de la République, comment on n'a pas d'argent? Imprime l'argent, moi je vais signer. Il lui dit, moi on ne peut pas faire ça, on va créer des problèmes. Il dit, imprime, la personne décide de démissionner. Idi Amin quitte Nakasero, pour ceux qui connaissent Kampala, là où le président vit à Nakasero, il vient jusqu'à Jinja Road, Kampala Road là-bas. Il trouve, il dit, où est le directeur? Il dit, il vient de démissionner, il vient de partir. La personne qui trouve le premier, toi tu viens, deviens directeur. Il les nomme, sans les connaître, sans savoir ce qu'il fait, si c'est un visiteur à la banque ou si c'est quelqu'un qui travaille à la banque. Il les met directeur de la Banque Centrale de l'Ouganda. C'est comme ça que l'Afrique est tombée en faillite. Où nous pensons que nous connaissons des choses. Il y a même des gens ici, dans cette paroisse, qui m'ont mis à Tembeza Avion à Tahiti. Sans savoir quoi faire. Moi, je veux que nous puissions nous former dans l'ombre. Soyons des errants dans l'ombre. Pour que je donne cette prédication, vous pensez que je me suis assis seulement hier et j'ai commencé à écrire? Ce sont des années d'expérience, de voyage, de lecture, de conversations sur le table, mes propres doutes, mes propres questionnements, c'est ce qui fait ce cocktail qui vous donne ce que vous êtes en train d'écouter là-bas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux aller préparer très rapidement le soir et tu viens ici pour impressionner les gens. Ça ne va pas fonctionner. Même ceux qui sont dans les ministères des champs. Nous avons des gens qui veulent aller très loin. Nous avons notre sœur Alice ici qui est allée très loin au niveau national. Vous pensez que c'est venu seulement comme ça, c'est oh, il y a battu, il n'y a pas, il y a une case. Il y a battu. Ni kazi ya grave kulala unasumbua na watu mnyumba wanakufukuza. Eh bwana utendaishi kwako wewe. Jua watu wanashindwa lala. Demande à ceux qui ont déjà appris à jouer à la guitare. Kama hawakufukuza kwenu, ça signifie que tu n'es pas passionné pour la musique, fais autre chose. Si tu veux être musicien et ça n'a jamais causé de problèmes avec ton entourage, tu n'es pas musicien, fais autre chose. Parce que ton niveau de passion doit être en conflit avec les gens qui sont avec toi. Allô? N'allez pas créer des conflits. Ni quoi, va bien tout ce qui se passe. Et mon élève, le premier point. Donc, mes chers amis, soyons comment? Des zéros dans l'ombre. Ne cherchez pas la lumière avant que tu ne sois formé. Tu vas être un désastre et tu vas fermer l'opportunité pour beaucoup d'autres gens. Tu sais pourquoi c'est important? Parce que quand on donne à un jeune l'opportunité de diriger, tu vas là-bas à ton nom, mais en même temps, tu représentes toute la jeunesse. Si tu échoues, tu donnes l'argument à d'autres, bah, jeunes, à José, à qui quitte. C'est ça même avec nous, les Congolais. Tu es Congolais, on te donne de diriger une institution internationale. Tu vas là-bas, tu voles. Tout Congolais qui arrivera là-bas, as-tu présenté ton passeport? En ce moment, il faut que mon clé. Ça signifie un autre thème aussi. Si tu fais bien ce que tu fais, tu veux te donner l'opportunité à tous ceux qui sont associés à toi à avoir un pas d'avance. Quand ils viennent en ton nom, les portes déjà s'ouvrent. Combien d'entre nous veulent ouvrir les portes pour les autres? Quand quelqu'un vient quelque part et dit « Je suis de Gomaville », on connaît quelqu'un de Gomaville, c'est « Ah, comment nous à Gomaville ?» Moumouachi. Allô? Bakora, le mufu mokwa tumie ya jena Gomaville. Unafika tu quelque part, mou conseil, moi, on en est un coup, on est kamat. Moi je suis choriste à Goma Ville. Eh, barakupa nyimbo. Mais aussi tu ingize mai, unaimba bien, c'est ma. S'il est de Goma Ville, il doit chanter bien. Aaron dans l'ombre, formation. Ça, vous pouvez lire dans 1 Samuel 16, versets 11 à 14. La formation de David. Deuxième chose. La première, je dis David, l'héros dans l'ombre. Deuxième, David, le tombeur de Goliath. Oh, je m'excuse, ça c'est la troisième chose. Ça c'est la troisième chose. Donc, mais pas t'avance. Deuxième chose, c'est David, le musicien de la cour. David, le musicien de la cour. Et ça, vous pouvez voir dans 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 18. Maintenant, regarde ce qui se passe. David, dans la forêt, il n'a pas d'autre chose à faire que de jouer à sa harpe. Quand on a eu ses mèches. Même si on a ses mèches, la conversation ne peut pas durer 5 minutes. Ou t'as dit bien, ben. N'a pas dit, ben. Si vous n'avez pas. Ingi ne m'a ni ben. N'a pas ni ben. La conversation ne peut pas évoluer. Ça signifie que David prend le temps de perfectionner sa harpe. Et la plupart des psaumes que nous avons, David les a écrits dans cette période parce qu'il était poète et il les a écrits dans l'autre période que nous allons voir au quatrième point. Les psaumes comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il a écrit pendant qu'il était berger lui-même. Et il faisait un parallélisme entre ce que lui est en train de faire comme berger et ce que l'Éternel fait pour lui. Et c'est pourquoi il utilise tous les mots qu'il est en train d'utiliser sont en rapport avec les bergers parce qu'ils étaient devant lui. La houlette et les bâtons, il avait ça devant lui. Et je suis sûr qu'il faisait en la houlette et ton bâton me rassure en le faisant. David développe. Maintenant, il y a un problème à la cour. Saul, le roi actuel, est tourmenté par un esprit mauvais. Il y a une réunion, on fait quoi? Le roi est tourmenté. Et quelqu'un amène une suggestion, cherchons un musicien qui va venir jouer la musique et ça va aider à apaiser le roi. Imaginez, le président de la République dit qu'il a un problème, il faut qu'on cherche un musicien. Tout l'entourage va savoir quel musicien on va chercher. Ici, je veux que nous puissions lire 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 18. Je pense que c'est bien de lire, ça c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut paraphraser. Il faut qu'on les lise pour que vous voyez la beauté de ce qui va se passer ici. David, les musiciens de la cour. 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 18. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer à la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de ta main et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Ça va? Qui joue comment? Trouvez un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Écoutez maintenant ici attentivement. 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Esaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saul envoya des messagers à Esaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. C'est le roi qui dit ça. Donc Saul, David angali kulo kuma brebis. Qui est avec les brebis? 20. Esaïe prit un âne à Kamutuma. Bon, ça on peut laisser. Maintenant regardez ce qui se passe. Quand Saul a un problème à la cour, il faut qu'on résolve le problème. Quelqu'un dans l'entourage de Paul connaît ce que David faisait dans les secrets. Et il y a un problème qui doit être résolu. Il se rappelle, je connais quelqu'un. L'ironie du sort est que David est déjà un roi. Quelle est la technologie ou la manœuvre qui peut faire quitter quelqu'un d'un brebis à lui donner son royaume? Dieu n'utilise pas une armée pour amener David auprès de Saul dans la cour. Il utilise un talent. Il utilise la musique, la poésie. Donc David, qui est déjà un roi, va aller à la cour, pas comme un prince, pas comme un roi, mais comme un musicien. Allô? Et il va commencer à jouer la musique à Saul. Et pendant qu'il joue, il est encore apprenti dans l'ombre. Il commence à voir comment les conseils se tiennent. Il commence à voir comment la cour se tient. Il commence, pas, Saul va donner à David un stage d'être roi sans le savoir. Parce qu'il est seulement musicien. S'il était venu à dire, ok, on m'a envoyé un roi, donc je vais commencer à faire le stage ici parce que je vais te remplacer bientôt. Qu'est-ce qui allait arriver? On allait couper la tête. Mais seul Dieu, par sa souveraineté, envoie David à la cour comme un musicien. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 16, je pense que tout le monde devait connaître ce verset. En anglais, ça se dit bien, « The gift of my man, make room for them and open a way for them before kings. » Les dons d'une personne ouvrent la voie et créent une place pour elle devant le roi. David va aller devant le roi comme un musicien et il va apprendre là-bas. Le mot clé ici est que votre don, votre talent est la porte d'entrée pour votre influence. Le don que vous avez développé dans l'ombre sera peut-être votre porte. Vous pouvez penser que je vais passer par cette porte, mais Dieu va utiliser quelque chose que vous négligez ou peut-être que vous faites chaque jour pour ouvrir des portes. Pour vous, quelle est cette chose-là que Dieu utilise souvent pour t'ouvrir des portes? Il faut le savoir. Par exemple, pour moi, c'est l'anglais. La plupart des portes, des grandes portes qui me viennent, viennent du fait que je suis bilingue. Je connais l'anglais et le français. Pour toi, c'est quoi? Les autres, c'est les chants. Les autres, c'est la photographie. Les autres, c'est l'informatique. Ça peut être quelque chose de, que tu négliges, peut-être que tu fais. Les autres, c'est la prédication, mais que tu vas t'ouvrir une voie. David, le musicien de la cour. Ici, David est devant la présence du roi, mais sans que son influence ne soit connue. Trois, je vais préparer maintenant très rapidement. David, le tombeur de Goliath. Maintenant ici, il y a une transition. Nous avions un David qui apprend dans la forêt. Nous avons un David qui apprend auprès du roi. Donc il a quand même fait une étape, il a fait un pas, mais il reste toujours dans l'ombre. Imaginez un musicien, ça signifie si Saul n'est pas tourmenté, quand il va être tourmenté, cherchez le musicien là, il vient et il joue. C'est l'influence, mais ce n'est pas là où il veut aller. Maintenant, regardez ce qui se passe. David, le tombeur de Goliath 3, c'est maintenant l'étape de la reconnaissance publique de votre talent dans les secrets. C'est une longue histoire, mais nous la connaissons, c'est ça l'avantage, ça va nous aider. David arrive au champ de bataille, il dit à Saul, je vais battre ces Philistins incirconcis. On lui donne les outils, bien sûr, il va refuser ça. Il va prendre les outils de Nianazoéa, qu'il a déjà pris le temps de perfectionner dans les secrets. Et il va avancer vers Goliath. Ça nous pouvons lire dans 1 Samuel 17, 32. Et David va battre Goliath, nous connaissons l'histoire, et couper sa tête. Ce qui va arriver maintenant est très intéressant. Si vous lisez dans 1 Samuel 17, 32 à 37, rappelez-vous que David était déjà le musicien de Saul, donc Saul le connaissait comme musicien. Mais si vous lisez dans 1 Samuel 32 à 37, Saul appelle Abner, qui était le chef de son armée, et lui pose la question, qui est ce monsieur? Et il est fils de qui? Quoi? C'est lui qui avait demandé qu'on l'amène. Il savait qu'il était fils. Mais ça signifie ici, David vient de faire une action dans une autre dimension où Saul est obligé de s'arrêter. Qui est ce monsieur et qui est-il? Et il demande même, il envoie les gens, allez me chercher d'où il vient. Mais c'est ton musicien. Ça signifie Dieu veut commencer à donner à David l'envergure nationale. La Bible dit que les femmes ont même commencé à chanter que Saul a tué les 10 000, les 1 000, et David a tué les 10 000. Les femmes. Allô? Vanamuka dans l'état, pas problème, ça, moi. David tue Goliath, Saul revient avec David, on l'amène devant le roi, et les femmes commencent à chanter, c'est oh, le roi a tué 1 000, David a tué ses 10 000. Le roi attend ses chants, et dit non, 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 on a un problème. Et là, David se révèle comme chef des armées. On va l'envoyer vers les Philistins, il va gagner, bien sûr. Il va commencer là aussi son amitié avec Jonathan, nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui permet à David de rester solide et de battre Goliath? C'est cet apprentissage qu'il a eu dans les secrets. Et il utilise ces mêmes outils pour battre Goliath. Donc les apprentissages que tu fais dans les secrets, ce sont les mêmes que Dieu va utiliser pour ouvrir ta voie. Le dernier point. David, le meneur patient. Ou les leaders patients. David est patient de prendre le pouvoir. Un détail que je ne vous ai pas dit, mais que je vous dis maintenant. Le temps où Samuel a oint David et le temps où David a pris le pouvoir, pensez-vous qu'il s'est passé combien de temps? Allô? Juste imaginez. C'est la moitié. Il s'est passé 15 ans entre le temps où Samuel oint David et le temps où David devient le roi. 15 ans. Et dans ces 15 ans, pendant 12 ans, David était en train de fuir dans le désert, en train de fuir Saul, aller vers les Philistins. C'est tout un long périple. Et c'est là où il a écrit les reps et les psaumes. Les 12 ans là, dans le désert. David est resté patient. Combien d'entre vous ici peuvent avoir une prophétie que Utakwa pasteur ou paroisse? Nango est 10 ans. Jusqu'à ce que le temps et les circonstances fonctionnent et que tu sois là. Est-ce que nous pouvons être des leaders patients? Les mots clés ici, c'est la patience et le timing de Dieu. Ils ont mouché mes pitapés combien mieux pour nous aider à conclure. Voilà, mes chers amis, je vous dis ceci. 4 moments dans la vie de David qui nous montrent un peu la progression que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. La première chose, prends le temps de te former. Le plus loin tu veux aller, le plus tu veux te former. Et je vous dis comment vous pouvez vous former. Imaginez un instant. Ce que tu veux faire dans la vie ou la responsabilité que tu veux prendre. Si tu n'es pas capable de me dire 3 choses, 3 décisions que tu peux prendre, si on te met à ce poste aujourd'hui, ça signifie que tu n'es pas prêt. À supposer que tu veux être gouverneur du Nord Kivu, si tu n'es pas à mesure de me dire 3 mesures que tu peux prendre, si on te donne l'occasion aujourd'hui, tu n'es pas prêt, va te former. À supposer que tu veux être chef ou quel que soit le rôle que tu veux jouer, il faut savoir est-ce que je suis prêt. Deuxième chose, permet que ton talent t'amène là où tu dois aller. Tu dois découvrir qu'est-ce que tu as à offrir au monde. Président, il faut qu'on organise quelque chose sur comment découvrir son talent ou comment découvrir la contribution que tu as à apporter au monde. Je pense que cela sera important. Parce que quand tu agis dans ton talent, même si va nakugombanisha, il ne va pas réussir. Ou si fanyaka compétition na mutu moyiko na agir mon talent, ou tavunjika. Parce que là où toi tu fais les efforts, ye hawazad. Moi je fais à cause 10 ans mina apprendre la guitare. Et aujourd'hui j'ai un niveau un peu douteux. Mais il y a des gens comme Nicolas, Donc c'est dans son sens. Je ne peux pas faire une compétition avec lui. Il y a aussi des choses dans lesquelles moi aussi je suis calé. Si tu veux faire la compétition avec moi dans ces Dokutalumi, est-ce que tu as un domaine dans lequel tu sais, moi aussi je peux me présenter sans avoir peur? Ça peut être un domaine spirituel, déjà comme Bolton ici qui dessine, il peut aller à une compétition. Mais est-ce que Vanessa Nipelec? Alors, quand Dieu maintenant ouvre le voie, restons humbles. Restons humbles et Dieu va nous bénir. Voilà un peu, mes chers amis, quelques pensées. Les autres choses, on va laisser pour la prochaine fois quand Dieu va ouvrir une voie. Ma prière pour vous est que vous soyez des personnes influentes. Devenir quelqu'un, suivez ces quatre étapes. Formez-vous, découvrez votre talent, utilisez les outils que Dieu vous a enseignés dans les secrets et soyez patient. Attendez le temps de Dieu. Tu peux être dans une chorale où tu chantes plus que les autres, mais avec pas de opportunité. Il y a un temps de Dieu. Ne crée pas ce temps où nous avons un temps. Non, non. Il y a un temps de Dieu. Quand ce temps viendra, tout le monde saura que où le moment. Je vous donne un exemple qui s'est passé le dimanche passé. Vous avez vu, certains d'entre vous connaissent le frère Chisomo, Brada Chisomo, qui il a dirigé le culte du dimanche antérieur. Et la façon dont il a fait, je me suis déjà dit de mon esprit, ça c'est un prédicateur, il faut qu'il prêche. Le moment où j'ai pensé cela, William aussi pensait à ça. Après le culte, nous sommes retrouvés, tu dis, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai dit, oui, j'ai vu ça. On a dit, non, proposons-lui de prêcher. Parce que c'est William qui allait prêcher aujourd'hui. On l'a proposé, il a accepté. Et vous avez vu sa prédication aujourd'hui. Il n'a jamais fait d'effort pour dire, moi aussi je prêche. C'est maintenant qu'il commence à nous raconter, oui, oui, je suis un prédicateur. Mais, Alikiatu ongoza service, mais si votre tukasuma, il y a des choses que tu peux faire, les gens sauront que ce n'est pas la première fois. Et ça va ouvrir les portes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse à vous.